logistique que provoquerait un tel naufrage au milieu du détroit du Pas-de-Calais. Depuis septembre 88, et ça c'est une retombée des actions de Greenpeace entreprises en 1984, et bien depuis septembre 88, les préfets maritimes peuvent, en cas d'accident maritime, mettre en œuvre un plan NUCMAR qui est un peu comparable au plan POLMAR qui est mis en œuvre au moment des pollutions par hydrocarbures. Et la première chose que le préfet devrait faire, que le préfet maritime devrait faire, est de déclencher de délimiter un périmètre interdit à la navigation et à la pêche. Aucune compagnie française ou anglaise n'est capable de réussir un tel renflouage. Aucune. Seule la compagnie hollandaise Smittac est capable de le faire et nous vous laissons imaginer donc les problèmes que ça provoquerait en travers de la Manche un tel chantier de renflouage. Car ce qui faisait le plus peur aux sauveteurs du Mont-Louis en 1984, c'était que d'autres bateaux pénètrent sur le chantier et entrent en collision avec l'épave du Mont-Louis, avec les remorqueurs et avec les plateformes de travail. J'étais sur le Sirius à ce moment-là pendant 3 semaines à côté du Mont-Louis et je vous assure que toutes les nuits il y a un bateau chaque nuit il y a un bateau qui est passé à quelques mètres du chantier parce qu'évidemment en pleine mer la signalisation est, vous le comprenez, extrêmement difficile, surtout par mauvais temps. Mais il n'y a pas que le train, il n'y a que le bateau, il y a aussi la poste. Il faut savoir que quelques grammes de plutonium peuvent être envoyés en colis postal. Je suis obligé de m'arrêter. J'aurais bien aimé pouvoir parler hier en même temps que les gens de Greenpeace. Je voudrais terminer peut-être en citant l'éditorial de ce journal qui s'appelle l'International Journal of Radioactive Materials Transport, qui est fait par des spécialistes de la BNFL, du CEA et d'autres compagnies nucléaires internationales. Voici un extrait de leur éditorial. C'est évident que l'Agence internationale de l'énergie atomique est incapable, pour des raisons de contraintes budgétaires, de dégager des fonds pour alimenter son programme sur la sécurité des transports. La sécurité des transports qui jusque-là, jusqu'alors, cet éditorial a été écrit en décembre 90. La sécurité des transports qui jusqu'alors a été un des fleurons de l'AIEA doit céder la place à des recherches susceptibles d'éviter d'autres Tchernobyl et de répondre à des événements comme celui de Guyana. Mais négliger la sécurité des transports est un expédient dangereux, non pas seulement à cause des risques techniques, mais surtout à cause des risques psychologiques qui pourraient, après un accident de transport, entamer la confiance du public envers l'industrie, la médecine et la recherche nucléaire. Et l'éditorial conclut par cette phrase prémonitoire : je souligne que les thèmes liés au transport des matières nucléaires seront utilisés par nos adversaires à la moindre occasion. Donc je suis entièrement solidaire de Greenpeace dans cette affaire. Le transport est le maillon faible de l'industrie nucléaire. C'est là que nous devons l'attaquer, mais il faut absolument qu'on le fasse ensemble pour avoir une riposte cohérente. Et donc je fais appel, enfin Robin Desbois est à la disposition de Greenpeace, des parlementaires européens et de tous les groupes qui sont là, y compris les groupes soviétiques, pour travailler ensemble et vite.
Merci. Il a été fait allusion à plusieurs reprises à une résolution des parlementaires européens. Je dois dire que c'est parce qu'il y avait des luttes sur le terrain, sur cette question des transports, et notamment à propos des transports vers la Grande-Bretagne, qu'il a été possible de faire cette résolution au Parlement européen. Mais vous savez aussi que pour qu'une résolution du Parlement européen soit transcrite dans les faits, il faut continuer la pression sur le terrain. Et donc il y a évidemment une action complémentaire qui peut se faire entre les associations et les élus. C'est en bonne voie, mais le concret n'est pas encore à la porte, si j'ose dire. Est-ce qu'on s'arrête là pour les transports, pour faire une petite pause, ou bien est-ce qu'il y a des questions précises ? Oui ?
Juste une précision, Monsieur Bonnemain, pour répondre à votre... au nombre de transports. Je parlais uniquement du Nord-Pas-de-Calais, qui a été mis en service en 1988 et qui, effectivement, a effectué deux allers-retours en 1988. Et maintenant, en 1990, il en a effectué 37 et pour 1995, plus de 50 sont prévus.
Merci. Je pense qu'on évite le débat entre Greenpeace et Robin des Bois. Ça me semble plus utile de poser des questions et aux uns et aux autres pour aboutir à une action commune.
Oui, une petite question.
Rapidement.
Oui, dans les années 93-94, le MOX va se promener dans toute la France. Alors, est-ce que les associations qui sont branchées sur le transport du plutonium et ses dérivés, est-ce qu'elles envisagent déjà, dès à présent, une étude au moins, en vue des actions futures concernant ce fameux MOX qui va se balader dans toute la France, même peut-être en Europe?
Tout à fait important, mais je crois que cela sera beaucoup plus le sujet des réflexions du réseau qui se met en place, tant sur le plan national que sur le plan européen à l'heure actuelle. Oui.
Je voulais simplement ajouter un élément à ce qui a été dit par les amis de Wackersdorf et également par la représentante d'Écosse, qu'il y a eu également une petite lutte politique pendant deux années à Berlin, et ceci contre le réacteur Hahn-Meitner, qui en fait est installé à Berlin, dans un district riche, qui a été l'occasion pour nous d'une lutte politique contre toute fission nucléaire, contre tout transport de substances nucléaires. Et la coalition entre les Verts et les sociaux-démocrates à Berlin ont conduit à avoir une femme comme ministre de l'Environnement pour les Verts à Berlin. Grâce à cela, il y a eu pendant trois mois dans la presse berlinoise un débat pour savoir si l'on peut exporter des déchets nucléaires vers l'Écosse ou pas, ou si ainsi de façon indirecte l'on n'arrive pas à promouvoir l'armement nucléaire et si l'on n'exporte pas ces déchets vers d'autres pays, déchets qu'on ne veut pas garder chez soi. Ceci, je vous le dis simplement pour vous montrer une des formes de solidarité. Je pense ceci était un exemple de solidarité. Maintenant, nous sommes affaiblis dans cette lutte parce que la coalition est différente. C'est une coalition entre CDU et SPD, ce qui naturellement conduit à rendre la situation beaucoup plus difficile pour de telles protestations. Une autre question. L'autre ministre de l'Environnement en Basse-Saxe, c'est une ancienne fondatrice de Greenpeace, Monita Grifa, qui est en Basse-Saxe ministre de l'Environnement. Et là, il s'agit surtout de stockage final et de stockage intermédiaire dans un certain nombre de sites. Et elle m'a dit qu'ils essayent maintenant de travailler sur le plan politique pour arriver à une espèce d'examen de compatibilité avec l'environnement pour le stockage final et stockage intermédiaire. Je voudrais demander donc aux différents représentants dans quelle mesure ceci pouvait être un moyen politique pour que la directive communautaire soit attaquée. Notamment, et que l'on utilise ceci au sujet des transports de MOX. Donc, on utilise ceci comme moyen politique de lutte.
Je voudrais vous rappeler que nous avons encore deux débats extrêmement importants. L'un sur les déchets nucléaires et l'autre sur l'aide aux victimes de Tchernobyl. Donc, nous arrêtons maintenant le débat sur les transports. 10 minutes de pause et pas une minute de plus. Et on revient travailler. Je vous rappelle tout d'abord, rapidement, qu'il y a eu, en février 90, un moratoire du Premier ministre en France, et c'est dû essentiellement au fait que les luttes ont été très fortes sur les sites éventuellement prévus.
Oui, je suis Max Salot, donc de l'association Granit, qui appartient à la coordination nationale. Je vous préciserai un petit peu chaque site tout à l'heure. En février 87, la France découvrait qu'il existait des déchets nucléaires. On savait qu'il y avait une industrie nucléaire, on savait qu'il y avait des centrales. Personne n'avait pensé qu'il existait des déchets produits par ces centrales. Et seulement en février 87, lorsque le gouvernement de l'époque a annoncé dans un premier temps le site de Neuvy-Bouin en Deux-Sèvres pour être étudié pour un éventuel stockage en profondeur des déchets radioactifs de moyenne et haute activité, que la France a découvert qu'il existait ces déchets. Peu de temps après, on a annoncé trois autres sites. Le site de Neuvy-Bouin, c'était les granites. Ensuite, il y a eu le schiste dans le Maine-et-Loire, la région de Segré, puis l'argile dans l'Aisne, la région de Sissonne-Montcornet, et enfin le sel de l'Ain près de Bourg-en-Bresse. Sur les quatre sites, immédiatement, je dirais, ça a été l'opposition. L'opposition qui s'est traduite de trois manières. D'abord par la création d'associations, deux associations dans les Deux-Sèvres, le SIAD et Granit, une association dans le Maine-et-Loire qui est la CATSA, une association dans la Bresse qui est le CAPA et une association dans l'Ain qui est Sauvegarde de la Bresse. Ces associations ont été soutenues, je dirais d'une manière très importante, par toutes les municipalités qui n'avaient jamais été consultées sur ce projet. Aujourd'hui, on pourra en reparler tout à l'heure, on est entre 200 et 300 municipalités qui soutiennent les associations sur chaque site. Le troisième niveau d'opposition, c'est montré par les parlementaires qui, dans toutes les régions, ont apporté leur soutien public à ces associations. Ces associations se sont regroupées au sein d'une coordination nationale. Et cette coordination nationale, depuis, je dirais, maintenant à peu près un an, travaille en relation, bien sûr, fait travailler les quatre sites ensemble, mais également travaille en relation avec d'autres sites européens. Et c'est pourquoi, en septembre dernier, 90, il y a eu une rencontre internationale à Neuvy-Bouin, où six pays voisins de la France étaient représentés. Un certain nombre de personnes sont là aujourd'hui pour le dire. Je vais tout de suite vous donner un petit peu la conclusion de cette rencontre. C'est les représentants de ces six pays. Bien sûr, ils affirment leur opposition au projet d'enfouissement. Ils affirment leur solidarité réciproque et leur soutien aux populations qui luttent contre les projets sur tous les autres sites de stockage et de recherche. Parce qu'il y a des sites de stockage, mais il y a également des sites de recherche, des laboratoires. Première génération, par exemple, dans les monts d'Oria. Il constate que l'opposition au projet d'enfouissement est unanime et qu'en conséquence, aucun pays n'a jusqu'à présent pris de décision définitive. Que les méthodes employées par les différents organismes officiels chargés de la gestion des déchets sont identiques et qu'ils s'appuient sur la propagande, le mensonge, le chantage, l'argent et si nécessaire la force. Il constate que le choix final repose plus sur des arguments sociopolitiques que sur des critères scientifiques. Et il constate qu'il n'existe à l'heure actuelle aucune solution acceptable tant au niveau moral que scientifique et technique. Il demande le maintien des déchets sur les lieux de production avec une possibilité de contrôle et d'intervention. La mise en place d'un véritable programme de recherche pour la neutralisation des déchets, la prise en compte du problème des transports. Et bien sûr, ils sont conscients qu'il sera nécessaire d'envisager un arrêt progressif des différents programmes nucléaires. Ceci, c'est, si vous voulez, la plateforme qui a été sortie au niveau européen par les différents pays concernés par l'enfouissement. Sur chaque site, l'opposition a été forte, je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle a été telle que pendant 2 ans et demi, presque 3 ans, sur 3 des 4 sites, aucun travaux n'a pu être réalisé, ni travaux de forage, ni rien. Seul un site, l'Aisne, où la résistance était un petit peu moins facile pour des raisons sociopolitiques, chômage, etc. Seul, donc, dans ce site, la première plateforme de forage a pu être effectuée. Mais il fallait bien faire avancer le programme. C'est pourquoi le 12 décembre 89, puis le 13, puis le 14, les forces publiques sont intervenues sur les différents sites pour justement qu'on puisse réaliser les premiers travaux de forage. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne s'est pas très bien passé. Sur le premier site qui a, je veux dire, été agressé le 12 décembre, il y avait 1000 personnes qui étaient présentes avant que n'arrivent les premières compagnies de garde mobile. Ça a été le blocage complet et les gardes mobiles ont fait marche arrière. Sur le deuxième site qui a été investi, c'était la nuit suivante à Segré. Là, ils sont passés dans la nuit et pendant 2 mois et demi, eh bien, ça a été la guerre. Le troisième site qui restait à atteindre, c'était la Bresse. Et là aussi, comme dans les Deux-Sèvres, eh bien, ils ont occupé le terrain, ils ont défoncé les routes avant que justement les gardes mobiles ne puissent passer. Pendant 2 mois, du 12 décembre jusqu'au 9 février, sur ces 3 sites, ça a été la guerre. Quand je dis la guerre, ça veut dire que dans 2 sites sur 3, ça a été l'occupation permanente des sites par les habitants. Les gens se sont relayés jour et nuit. Il y a eu Noël, il y a eu le premier de l'an. Et jour et nuit, il y avait des gens sur le terrain pour surveiller et empêcher les forces d'investir le terrain. Sur le site du Segréen, qui lui avait été occupé, ça a été pendant 2 mois la guérilla, c'est-à-dire que tous les jours pratiquement, c'était des interventions, des heurts plus ou moins violents avec les gardes mobiles, un certain nombre de manifestations, blocage de l'autoroute, investissement des supermarchés qui improvisionnaient les gardes mobiles, etc. Et ça s'est terminé par une grande manifestation à Angers où il y avait entre 15 et 17 000 personnes qui étaient présentes. Bien sûr, les personnes du Maine-et-Loire, mais également les personnes des autres sites français avaient fait le déplacement pour apporter leur soutien. Étaient présents à cette manifestation également tous les élus de la région, hein, tous les élus importants, députés, sénateurs, conseillers généraux, etc., qui ont, lors de cette manifestation publique, apporté leur soutien et exprimé leur opposition au projet d'enfouissement. Y compris Didier Angers, bien sûr, mais lui, il est là depuis février 87 avec toutes les associations sur le terrain pour apporter, je dirais, la bonne parole aux populations. Bien. On ne saura jamais assez le remercier, quand même. Oui, il prêche, oui. Bon, tout ceci faisait que la situation était complètement bloquée et à moins de coups de force très, très importants qui auraient entraîné des heurts et on ne sait pas jusqu'où ça aurait pu aller, on ne voyait pas comment sortir de l'ornière. C'est pourquoi le 9 février, le gouvernement a décidé un moratoire d'un an. Pendant ce moratoire, le problème a été confié à 2 organismes qui sont, un, le Collège de la prévention des risques technologiques, qui est composé de juristes et de scientifiques, et 2, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui lui, je dirais, comprend des parlementaires à la fois députés et sénateurs. Pendant un an, ils ont fait leur travail, ils ont été voir à droite, à gauche, à l'étranger, ils sont allés voir les scientifiques, ils ont un petit peu été voir la population également. Il y a eu une audition publique de l'Office parlementaire où tout le monde a pu aller. Je dirais, lors de ces auditions, la coordination nationale a exprimé un petit peu les raisons fondamentales de l'opposition des gens au projet d'enfouissement. Bien sûr, il y a les problèmes, je dirais, concrets actuels, qui sont les problèmes de transport, qui sont les problèmes de stockage de surface. Bien sûr, il y a les conséquences économiques. Un dossier commandé par le Conseil général de l'Aisne a montré que l'implantation d'un site d'enfouissement de déchets hautement radioactifs aurait des retombées économiques catastrophiques pour la région. Mais surtout, l'opposition des gens est basée, je dirais, sur des arguments d'ordre éthique et moral. Les clivages traditionnels, politiques, religieux, professionnels, sociaux, etc., au lieu de diviser, ont rassemblé. Notre conscience ne nous permet pas d'hypothéquer sur l'avenir des générations futures, car c'est bien de cela dont il s'agit. L'enfouissement des déchets radioactifs comporte des risques. Aucun scientifique sérieux ne peut le nier. Et nous refusons de prendre ces risques pour les générations futures. Nous n'avons pas le droit de nous taire, nous sommes responsables. Et à ce sujet, on a une phrase de référence, elle vient d'Antoine de Saint-Exupéry. Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, mais nous l'empruntons à nos petits-enfants. Et je crois que ça, c'est important. Aujourd'hui, le moratoire est terminé. Le Collège des scientifiques et l'Office parlementaire a sorti ses conclusions. Rapidement, je vais vous donner ces conclusions. On nous dit, ben voilà, vous avez raison. Vous avez raison de contester l'indépendance de l'ANDRA. L'ANDRA, je rappelle, c'est l'organisme chargé de la gestion des déchets radioactifs. Vous avez raison de dire que ce n'est pas indépendant de tout le lobby nucléaire, puisque ça dépend directement du CEA. Vous avez raison de dire qu'on ne joue pas le jeu de la transparence. Et c'est vrai, puisque même les élus n'avaient pas été informés des projets d'enfouissement. Vous avez raison de dire que la démocratie locale n'est pas respectée. Ça, c'est tout à fait vrai. Vous avez raison de dire que la recherche n'a pas été effectuée, qu'il manque de l'argent, etc. Vous avez raison sur tout ça, mais n'empêche que l'enfouissement est la seule solution aujourd'hui envisagée. Voilà. Alors pour, permettre de faire avancer la situation, eh bien on a trouvé une excellente solution. En France, il y a une manière d'imposer, c'est l'intérêt national. Et pour ça, il y a un projet de loi qui va être discuté à la session de printemps, c'est-à-dire à partir du mois d'avril, qui aura pour but de fixer les modalités d'enfouissement des déchets. Et à partir de ce moment-là, il sera difficile aux populations locales de dire, eh ben voilà, nous refusons parce que ce n'est pas dans l'intérêt des gens, et on vous répondra, mais les élus du peuple, démocratiquement, ont voté une loi qui dit que pour l'intérêt général, l'intérêt national, eh bien, on peut sacrifier une région. Voilà un petit peu ce qui nous attend à l'heure actuelle.
Merci. Alors, je demanderai... Je demanderai aux représentants de chacun des sites d'être très très brefs, puisque... Alors, Granit, tu as parlé en même temps au nom de la coordination et de Granit. Granit, donc, c'est le site des Deux-Sèvres. La CATSA.
Je crois qu'on
le CATSA.
Le CATSA, Yannick Brousse, oui, on n'a pas grand-chose à rajouter, si ce n'est qu'effectivement... C'est la région de Segré, dans le Maine-et-Loire. Effectivement, c'est nous qui avons vécu pendant 2 mois la lutte sur le terrain, qui a été très difficile avec beaucoup d'affrontements. Et c'est vrai que c'est au vu du nombre de gens qui se sont mobilisés, qui se déplaçaient sur le terrain, qu'on a enfin obtenu un rendez-vous à Matignon pour que ce moratoire ait lieu. Je voudrais simplement rajouter une précision, c'est qu'effectivement, on devait mettre ce dossier bien à plat. Et en conclusion, il est toujours question d'enfouissement puisqu'il n'y a pas d'autre solution de proposer. Donc ce dossier n'a absolument pas du tout été mis à plat.
Le comité anti-poubelle de l'Aisne.
Oui, alors Michel Gosset de l'Aisne. Pour ajouter quelques mots simplement sur ce qui se passe dans notre département...
Max a dit tout à l'heure que c'est vrai, on est le seul département où les travaux de forage ont pu être effectués par l'ANDRA, parce que la résistance n'a pas été suffisamment forte à ce moment-là. Je voudrais dire qu'on a bénéficié de l'arrêt des travaux suite au moratoire de Michel Rocard en même temps que les 3 autres sites. Et on n'a pas stoppé notre lutte, bien au contraire, on a essayé d'intensifier toute cette période pour sensibiliser la population. On a obtenu des résultats et on espère, entre autres, des prises de position très importantes d'élus. En particulier, le Conseil général de l'Aisne, à l'unanimité, s'est opposé au projet en ces termes. Le Conseil général exprime son opposition au projet tel qu'il est actuellement présenté en raison des insuffisances scientifiques relevées par la commission d'études. Une autre phrase importante de cette prise de position, c'est « Dans l'hypothèse où les réflexions engagées conduiraient à une reprise des études géologiques, le Conseil général de l'Aisne exige qu'elle reprenne de manière simultanée sur les 4 sites. » J'allais dire, c'est un peu hypocrite, mais c'est très futile, très malin, puisqu'on sait bien que sur les 3 autres sites, l'opposition est beaucoup plus forte que chez nous, et on essaie de faire levier sur cette opposition en disant, comme ça aura du mal à redémarrer ailleurs, on s'opposera si ça ne redémarre pas là-bas. Voilà, simplement, il y a aussi dans l'Aisne 285 conseils municipaux qui ont pris une position contre, 50 dans les Ardennes. Le président du conseil régional de Picardie est venu lui-même sur le site clamer haut et fort son opposition au projet. Je pense que ça commence à bouillonner aussi bien dans notre département.
Merci. Le il y a eu une audition publique du Parlement français qui a abouti sur un rapport bataille. La seule nouveauté, ça a été en gros de réintroduire 24 sites aux 4 qui avaient été prévus. Et parmi les 24 sites éventuels réintroduits, il y a Barfleur, qui se situe donc dans la presqu'île du Cotentin, à l'extrémité inverse de l'usine de Lague. Alors, quelqu'un du comité Barfleur fait le point rapidement de l'existence nouvelle de ce comité.
Oui, notre comité s'est constitué très récemment et c'est venu du besoin de la population de marquer clairement son refus quant à l'éventualité de l'implantation d'une décharge de déchets. Ceci après avoir pris connaissance du rapport Bataille. Le comité a été créé à la mi-janvier 90 et a immédiatement lancé une lettre de pétition qui devait toucher chaque habitant dans chaque village. C'est-à-dire qu'il y a 36 villages pour l'instant dans le Val de Serre, le Val de Serre se trouvant à l'est de La Hague, donc il n'est pas très loin de l'usine de La Hague. Et il y a 36 communes sur deux cantons qui sont concernées. Donc on voulait déjà une lettre de pétition touchant chaque habitant, permanent ou non, puisque c'est une région quand même assez touristique et avec des gens qui viennent en villégiature. Et pour montrer aux élus locaux et régionaux le refus des habitants de voir leur région à nouveau être l'objet des attentions des techniciens du nucléaire. On en est là pour l'instant. Il y a environ 8000 signatures sur 13000 habitants. Et on attend que les élus prennent position contre l'installation d'un site de stockage. Donc on a déjà contacté le sénateur de la région, les conseillers généraux, les quelques députés. Et donc, c'en est au tout début. Voilà.
Je rappelle qu'en janvier, les Verts avaient tenu une réunion publique sur le secteur avec plus de 300 personnes dans la salle, ce qui était un début de mobilisation.
C'était à la même époque qu'il y avait eu aussi une réunion avec les maires des 36 communes qui n'étaient vraiment pas très clairement, qui ne marquaient pas tellement clairement leur refus, justement, ce qui expliquait aussi l'action des habitants de la région.
Bon, la mobilisation est donc en cours. Maintenant, Martine Dardenne, tu te présentes et tu es brève.
Je vais essayer. Merci Didier. Donc, je suis Martine Dardenne et je suis sénateur au Parlement national de Belgique, sénateur écolo. Alors, je voudrais rapidement évoquer un travail qui a été fait par le Parlement belge concernant la problématique des déchets nucléaires. Donc, en Belgique, il y a un site prévu pour les déchets de haute activité, c'est le site de Mol-Dessel en Flandre, qui est un site où se trouve le centre d'études nucléaires belge, donc qui est un site déjà nucléarisé depuis très longtemps. Et c'est un site d'argile, de baume. Et il y a pour les déchets de moyenne et faible activité 5 sites prévus, 2 en Flandre, 3 en Wallonie. Et il y a eu à propos de ces sites une mobilisation également sur chacun de ces sites, mais ça date déjà de 87-88. Et pour l'instant, on peut dire que les choses en sont, je n'oserais quand même pas dire au point mort, mais enfin, en tout cas, publiquement au point mort. Et cela se situe au niveau des études géologiques qui sont faites sur les sites. Alors, je pense que le travail le plus important depuis a été fait au Parlement, donc où il y a une commission d'information et d'enquête en matière de sécurité nucléaire qui a été créée après l'accident de Tchernobyl, donc en 1986. Et depuis 1986, cette commission s'est penchée sur toute une série de problèmes afférents qui ont trait au nucléaire, et notamment sur la problématique des déchets radioactifs. Il en est sorti un rapport qui est tout à fait intéressant parce qu'il fait vraiment bien le point sur à la fois scientifique et je dirais économique et sociologique aussi sur cette problématique. Alors, j'aimerais relever peut-être quelques éléments qui me paraissent importants parce que ça peut être un outil effectivement pour tous les opposants aux déchets nucléaires. Alors, ce rapport souligne notamment
que les déchets conditionnés dans le béton et le bitume, en fait, il n'existe pour ces déchets-là actuellement pas de connaissances suffisantes disponibles pour passer à l'enfouissement. Cela présente donc un gros problème, tout ce qui est enrobage en bitume, puisqu'on craint des dégagements gazeux et des possibilités de modification des matériaux d'incorporation et d'emballage. Donc, et tout cela a été confirmé, il faut le dire aussi, par un rapport d'évaluation qui a été fait en Belgique au nom donc, du secrétariat d'État à l'énergie, un rapport d'évaluation d'un autre rapport qui faisait le point, je dirais, sur la problématique des études concernant les déchets nucléaires. Et ce rapport d'évaluation montre qu'en fait, il n'y a aucun conditionnement fiable et que toute une série d'études complémentaires doivent encore être faites avant de pouvoir passer au moindre enfouissement. Donc ça me paraît aussi un document fort intéressant. J'en ai d'ailleurs donné quelques copies aux personnes intéressées. Alors, d'autre part, on a dans ce rapport de la commission de Tchernobyl, enfin qui est appelé familièrement la commission de Tchernobyl au Sénat belge, on dit aussi que les installations de compactage et d'incinération sur le site de Mol en Belgique sont tout à fait vétustes, que l'incinération produit des cendres. Pour lesquels il n'existe actuellement pas d'installation de traitement ni de conditionnement, en tout cas en Belgique. On nous dit aussi qu'il reste toujours en Belgique des déchets contaminés au radium, qui sont des déchets solides de moyenne activité pour lesquels il n'existe actuellement aucune solution. Le rapport dit également à propos du concept de dépôt définitif, et là je crois que c'est tout à fait intéressant aussi, et du concept de dépôt définitif et d'évacuation, on peut lire ceci. L'expression d'évacuation suppose qu'on est définitivement débarrassé des déchets, ce qui n'est pas le cas. Et là je souligne, c'est donc le rapport qui le dit, même si le but et de ne plus devoir s'en soucier. Et c'est moi aussi qui souligne cette phrase. Les déchets constitueront toujours un risque. Donc voilà quelque chose qui est écrit dans un rapport tout à fait officiel. Ça me paraît quand même très intéressant. Alors d'autre part, on sait aussi que les déchets de faible activité de catégorie A contiennent toujours des quantités qui sont dites insignifiantes de radionucléides de demi-vie beaucoup plus longues. Or, d'après les chiffres de rejet en mer, on sait que ces quantités sont loin d'être négligeables. Et le rapport ici note qu'il s'agit d'environ la moitié des déchets de faible activité qui sont en fait contaminés par notamment des particules dites alpha. Or, le confinement de ces déchets de catégorie A est prévu pour 300 ans, alors que les radionucléides en question, contaminés, enfin les alpha, sont de durée de vie beaucoup plus longue. Et il n'existe actuellement aucune étude spécifique relative à l'enfouissement de ces déchets de catégorie A contaminés, alpha. Alors, le rapport précise aussi qu'aucune étude, et a fortiori aucune solution, n'est envisagé jusqu'à présent pour les déchets de haute activité qui sont aussi chimiquement toxiques, comme par exemple les barres de contrôle de réacteurs. Donc voilà toute une série d'éléments qui me paraissent très, très importants dans ce rapport. Et il est également souligné donc, dans le rapport d'évaluation dont j'ai parlé qu'il faudrait, quand il s'agit de parler des doses admissibles, utiliser les valeurs les plus récentes qui sont préconisées par la CIPR, notamment pour l'ingestion, et montrer aussi, le rapport dit aussi que l'évaluation du risque doit être globale en ce qui concerne le cancer et doit prendre en compte, outre le risque de cancer létal, c'est-à-dire le risque de cancer mortel, le risque lié aux dommages génétiques, mais aussi à l'apparition du cancer et à l'accroissement du risque de son développement dans les organes et les embryons. Voilà quelque chose qui, je pense, est dit pour la première fois dans un rapport officiel. Ce n'est généralement pas le discours qui est tenu. Alors, voilà, ça, disons, une série de données qui ne sont pas, ce n'est pas exhaustif comme liste, mais il y a encore d'autres choses dans le rapport. Mais je pense qu'à partir de cela, on peut quand même se demander, et je crois que toute personne de bon sens se le demande, comment est-il possible de continuer à produire des déchets, et de tels déchets. Alors, quelles solutions proposons-nous? Effectivement, alors nous disons qu'à court terme, il faut choisir immédiatement l'option du non-retraitement, en tout cas des combustibles irradiés, parce que contrairement à ce que l'on dit généralement, et on nous l'a dit hier plusieurs fois, c'est vrai que le retraitement ne diminue en rien la quantité des déchets. Au contraire, le retraitement complique la gestion de ces déchets, puisque apparaissent des particules chaudes plus difficiles à gérer, et
D'autre part, la quantité devient plus importante également. Alors, il est vrai que ce rapport dit aussi, et c'est la première fois également dans un rapport officiel que cela apparaît, et là je vais peut-être vous lire les recommandations, et c'est relativement important aussi pour les gens de la Hague de le savoir. Alors, dans ce rapport, on lit ceci, ce sont des recommandations donc, qui sont faites au gouvernement belge. Dans l'option entre retraitement et non-retraitement, les aspects commerciaux doivent céder le pas aux aspects de sécurité. Voilà la première recommandation. La seconde, c'est la création d'une commission composée d'experts belges et étrangers non liés aux décisions déjà prises en faveur du retraitement et chargée de remettre une étude détaillée sur la situation belge en tenant compte des études et avis des pays étrangers disposant de réacteurs à eau légère. Cette commission d'experts devrait remettre son rapport dans un délai maximum d'un an sur l'option non-retraitement comparée à l'option retraitement. Et sur base de ce rapport d'expertise, c'est la troisième recommandation, avis à demander au Comité national de l'énergie et au Conseil supérieur d'hygiène, remise au Parlement d'un rapport général sur l'option proposée et débat au Parlement sur cette matière, donc retraitement ou non-retraitement. Ce qui veut dire qu'en Belgique, on est à la veille de choisir et de changer de voie et de prendre plutôt l'option du non-retraitement que l'option retraitement. Donc je crois que c'est quand même quelque chose de très important à souligner et nous allons avoir dans les semaines qui viennent un débat énergétique au Parlement, notamment au Sénat, et nous allons en profiter pour réintroduire des propositions de résolution concernant ces recommandations pour obliger le gouvernement belge à passer aux actes et à suivre les recommandations de la commission Tchernobyl. Voilà ce que j'avais à dire sur la situation en Belgique.
Merci Martine d'avoir été aussi brève. Nos amis de Jersey, du Green Party de Jersey sont là et nous leur donnons la parole en leur demandant également d'être brefs.
Hello. I am a deputy in the government.
Je suis député donc vert sur l'île de Jersey. La population de Jersey s'intéresse très peu aux questions nucléaires, est peu sensibilisée. Il y a quelques années encore, quiconque se saisissait de ce sujet était traité d'hurluberlu en quelque sorte. Et on vous disait, mais c'est pas notre problème, c'est un problème qui concerne les grands pays, les grandes nations. Et nous avons essayé de faire évoluer les choses. Alors, nous entendons d'ailleurs pousser notre Parlement à faire opposition au plan du gouvernement français en ce qui concerne l'élargissement de l'usine de La Hague. Bon, nous sommes tout à fait concernés par les problèmes de transport et par les risques afférents. C'est ainsi, par exemple, que l'année dernière, un navire a perdu un conteneur qui contenait des substances chimiques dangereuses et il a été très difficile de retrouver ce conteneur qui est tombé du bateau. Il s'agissait de substances chimiques très dangereuses, donc je le dis, ce n'est qu'au bout de longues recherches, enfin pendant une semaine de recherche, c'est impossible de retrouver la trace de ce conteneur. Alors, s'il n'est même pas possible de trouver un conteneur de ce type, comment retrouver un conteneur, par exemple, chargé de substances radioactives qui tomberaient d'un bateau? C'est impossible. C'est quelque chose donc qui ne pourrait pas se faire. Alors, nous sommes dépendants du tourisme et de l'agriculture, je dois dire, à Jersey. Voilà les deux activités principales de notre île. Alors, le plus petit problème dû au nucléaire détruirait l'ensemble de l'économie, de l'activité économique de notre pays. Et c'est ce que j'entends bien dire lors de ma prochaine intervention au Parlement. Et je voudrais convaincre notre gouvernement de prendre contact avec le gouvernement français pour, dans un souci, donc, de préserver les bases de notre économie. Et s'il y a, et je pense que notre gouvernement devra demander au gouvernement français de supporter, enfin, dédommager notre île en cas de destruction de ses bases, des bases de son économie, ce qui serait inacceptable pour le gouvernement français, évidemment. Mais je pense que c'est dans ce sens qu'il faut faire pression. Bon, alors de toute façon, tout ce que nous faisons doit se faire par le truchement du gouvernement britannique. C'est une difficulté supplémentaire. Donc nous devons nous adresser au gouvernement britannique, lui demander par exemple, faites pression sur le gouvernement français, faites opposition au projet du gouvernement français. Le gouvernement britannique est obligé de le faire d'ailleurs, mais cela met ce même gouvernement dans une situation tout à fait délicate, étant entendu donc la politique du gouvernement britannique, CF, Winskel, la file. Donc j'entends soulever cette question au Parlement et j'espère être suivi. Bon, je pense effectivement que cela mettra le gouvernement britannique dans une situation tout à fait inconfortable vis-à-vis du gouvernement français, mais il faut le faire. Alors, certains sont tout à fait fatalistes en tout disant, de toute façon, il n'y a rien à faire, on ne peut rien faire. C'est pas vrai. Notre voix, si fluette soit-elle, peut avoir des effets. Je pense donc qu'il faut absolument se lancer dans cette tentative. C'est pas parce que nous sommes une petite île qu'il faut qu'il ne faut pas se battre. D'ailleurs, si on prend par exemple les événements à Wackersdorf qui se sont soldés par une victoire, eh bien je pense que c'est tout à fait encourageant. Et je pense effectivement que cela prouve ce que l'on peut faire lorsque l'on unit ses forces et que lorsque l'on lutte ensemble. Donc nous avons fait tout un travail d'information, toute une campagne d'information sur le nucléaire. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est l'articulation internationale. Je pense effectivement que des réunions comme celle de ce matin sont importantes. Je pense effectivement qu'il faut maintenant mieux unir nos efforts au niveau international. Nous sommes petits et je pense que nous n'aurons que plus de force si nous, effectivement, nous nous unissons avec l'autre. Merci.
Merci. Une première chose, nous avons pris l'initiative de créer l'an dernier une interrégionale Normandie et Anglo-Normand et Anglo-Normand, mais il est vrai qu'il faut réactiver un petit peu cette structure. Autre chose, dans la petite brochure que nous vous avons mis à votre disposition, il y a un article extrait du journal Silence qui fait le point sur notre position en tant que Vert, sur que faire des déchets nucléaires. Enfin, donc je l'ai aussi en anglais pour ceux qui le voudraient en anglais. Je voudrais vous dire également que dans l'extraction du plutonium, dans éventuellement les transports, etc., il y a, on l'a déjà dit hier avec M. Leventhal, des problèmes de perte de plutonium. Je vous rappelle qu'à Winskel-Sellafield, on a perdu jusqu'à 7% du plutonium en cours d'extraction à certains moments. À La Hague, la commission Castaing, qui s'est réunie de 82 à 83, estimait à 1,5% les pertes de plutonium. La CFDT, syndicat de La Hague, estimait, elle, que cela pouvait atteindre 2%. Où ? Eh bien, on l'a vu, peut-être qu'il y a eu des problèmes de prolifération, c'est-à-dire que le plutonium n'a peut-être pas été perdu pour tous et qu'il y a eu des sorties de plutonium. Mais on a retrouvé aussi, on retrouve du plutonium en mer de la Manche, on trouve du plutonium dans la vallée du Rhône, et on trouve du plutonium sur certaines décharges, comme celle de Saint-Aubin, dans la région parisienne. C'était une introduction pour permettre à Roland Desbordes de la CRIRAD, donc un organisme indépendant de contrôle de la radioactivité, l'équivalent dans le reste de la France de ce qui existe ici avec la CRO. Donc Roland Desbordes, tu nous fais au plus court un tour d'horizon sur non pas la prolifération mais la dissémination du plutonium.
D'abord, je crois préciser une chose importante, c'est que ici vous parlez de déchets, c'est-à-dire que vous reconnaissez ou les organismes officiels reconnaissent qu'il s'agit bien de déchets nucléaires. Le problème, c'est que à Saint-Aubin, dans l'Essonne, l'organisme responsable, lui, dit qu'il ne s'agit absolument pas de déchets nucléaires. Il s'agit d'un endroit banal, d'un ICPE, c'est-à-dire d'un institut, d'une installation simplement banale. Or, il est encore sorti une enquête hier, donc dans Le Monde, on peut lire, une enquête exclut tout danger de radioactivité dans l'Essonne, suite à un rapport du CEA, qui est paru 2 jours avant, rapport, commentaire officieux du CEA, je ne sais pas pourquoi officieux, mais enfin c'est un commentaire qui a été présenté à la presse, alors pourquoi serait-il officieux? Résultat des analyses donc, sur la déposante de Saint-Aubin. Alors, ce qui est amusant, c'est que dans ce rapport, il est évident qu'on a fait, ils ont soi-disant fait 20 000 points de mesure entre CNRS et CEA, et qu'on aurait trouvé donc 0,22 grammes, on aurait estimé à 0,22 grammes de plutonium qui serait réparti sur une zone donc des 2000 tonnes de boue séchée qui sont sur cette décharge. Or, si on s'en tient à 0,022 grammes, effectivement, ça paraît pas évident pour la plupart des gens, en particulier pour les journalistes, de savoir si, effectivement, il s'agit là, effectivement, on peut considérer qu'il s'agit d'une décharge ou pas. Or, si on fait le calcul, et qui n'est pas repris, bien sûr, dans le journal Le Monde, si on fait le calcul, ça correspond à 13,5 millicuries de plutonium. Or, à partir de 1 millicurie, selon la législation française, il est donc... c'est une installation qui doit être déclarée décharge radioactive. Bon, donc il faut que le CEA arrête de jouer à ce jeu un petit peu bizarre, de dire que ce n'est pas une décharge. Alors, je vais simplement essayer de tirer un petit peu les conclusions de cette bataille un petit peu à Saint-Aubin, qui a un petit peu défrayé la chronique, parce que pour la première fois, on reconnaissait qu'il y avait du plutonium en dehors de sites bien localisés, comme la Hague, là on sait qu'il y en a. Autour des centrales, on le sait moins, mais on le sait quand même. En tout cas, dans des endroits comme dans l'Essonne et tout près de Paris, je veux dire, c'était un petit peu inattendu. Alors, je ne rappelle pas l'histoire donc, qui est partie donc, d'un journaliste du Parisien, libéré, du Parisien, donc, qui a fait un prélèvement d'échantillons, qui l'a amené à la CRIRAD, bon, etc. Je crois que c'était assez bien repris par les médias. Cette histoire date d'à peu près de 6 mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis, il y a eu donc pas mal d'événements qui ont amené à plusieurs conclusions. D'abord, l'incompétence des services officiels de contrôle. Le SCPRI affirmait dans tous ses papiers qu'à la décharge de Saint-Aubin, il n'y avait pas d'alpha, pas de bêta. Mais il y avait du césium. Alors, il faut des savoirs, puisque le césium est un émetteur bêta, il reconnaissait qu'il y avait du césium, mais qu'il n'y avait pas de bêta. Alors, c'était quand même un peu invraisemblable. Mais en même temps, le SCPRI a accusé la CRIRAD de tromperie, que la CRIRAD n'était pas capable d'analyser, de détecter s'il y avait de l'uranium-238, etc. Ce qui a d'ailleurs amené la CRIRAD à porter plainte contre le directeur, M. Pellerin. Bon, l'action est en cours. Que dans les résultats que l'on voyait au niveau du SCPRI sur le site de Saint-Aubin, eh bien, il était souvent indiqué, et même pratiquement toujours, AAS, c'est-à-dire aucune activité significative pour ceux qui ont l'habitude de lire les bulletins du SCPRI. Alors, pourquoi ceci? Bien, parce que le SCPRI, comme dans beaucoup d'autres sites en France, et on s'en est aperçu, c'est que le service central en France, il y a des chasses gardées dans le nucléaire en France, c'est-à-dire au niveau des contrôles. Tout ce qui est site CEA est quasiment sous le contrôle du CEA, c'est-à-dire que le SCPRI est censé contrôler le CEA, mais en fait ne le fait pas. Bon, ça c'est quand même un peu gros. Mais en particulier sur Saint-Aubin, mais c'est vrai ailleurs. On dit que le CEA savait qu'il y avait du plutonium à Saint-Aubin, mais que ces rapports avaient été égarés dans les hautes sphères du CEA. Il était incroyable que ces organismes comme le CEA sont aussi incompétents que, bon, en rentrant dans un domaine plus technique de la mesure, ils mesurent par exemple l'uranium-238, le CEA, sur un descendant très lointain, qui est donc le thorium-234, sur le bismuth, pardon, 214, alors que si on fait cette mesure sur le bismuth 214, on ne trouve que 4% de la radioactivité de départ. Bon, je veux dire, sur le plan technique, on peut mettre en doute la compétence des organismes du CEA. Bien, ils ont même dit au CEA qu'il n'y avait pas plus de plutonium à Saint-Aubin que dans le jardin du Français moyen. Bon, ça c'est quand même aussi gros, c'est ce qui a été dit par rapport à Superphénix, c'est-à-dire 0,01 becquerel par kilo. Or, la CRIRAD en a trouvé plus de 2000 becquerel par kilo. Ça fait quand même une grosse différence. On s'est retrouvé devant la toute-puissance du CEA, qui est un état dans l'état, un peu comme l'EDF. Il faut voir que le CEA interprète les textes de loi à sa bonne manière. Et ces interprétations amènent d'ailleurs un problème, nous a mis devant un problème qui est très grave, puisque on ne sait pas aujourd'hui, comment interpréter certains textes de loi qui sont flous, et c'est vrai qu'eux les interprètent à leur manière, et que les organismes officiels, c'est-à-dire les politiques, suivent généralement l'interprétation du CEA. Or, ces textes, effectivement, il existe un nombre de textes un petit peu flous sur à partir de quand a-t-on une décharge radioactive ? C'est-à-dire, à partir de quand doit-on installer des panneaux de protection des populations autour ? Il n'existe pas de législation claire par rapport au public. Il existe une législation claire par rapport aux travailleurs du nucléaire. Pour rapport aux travailleurs du nucléaire, il est clair que quand on a une certaine quantité de radioactivité accumulée à un endroit, par rapport aux travailleurs, il y a une législation qui est la législation donc, claire. Par contre, par rapport au public, ça, c'est, on ne sait pas très bien. Alors là, le CEA interprète les textes à sa manière. Et ainsi, il va même jusqu'à dire, bon, mais puisque il y a deux limites pour définir ce que c'est qu'une décharge. Quand est-ce qu'on a une décharge, quand on n'a pas. Il y a une activité globale, c'est-à-dire l'ensemble, l'activité globale. Alors là, le SCPRI dit c'est 370 000 becquerels, le CEA dit c'est 100 000 becquerels. Bon, il y a des interprétations différentes. En Angleterre, par exemple, c'est 1000 becquerels. À partir de 1000 becquerels par kilo, on estime qu'on n'est plus dans un lieu banal. Et puis, il y a une activité spécifique par masse, c'est-à-dire en quelque sorte de concentration. Et ça, c'est une autre limite. Et alors, là, on se retrouve devant une explication du CEA qui est assez géniale. C'est qu'il dit, ben, puisque si on a des points chauds dans la décharge, eh bien, on n'a qu'à les disséminer. Et il y a même un ingénieur du CEA qui a proposé, c'est que dire, les boues radioactives de Saint-Aubin, puisque ce sont des boues de stations d'épuration, eh bien, on va les distribuer aux agriculteurs, ils vont pouvoir épandre ça dans leurs champs, et à ce moment-là, la concentration va automatiquement diminuer, et automatiquement, nous sommes sauvés. Alors, c'est comme ça que le CEA est censé gérer les déchets à longue vie, je ne sais pas, en tout cas c'est inquiétant. Il faut savoir que l'ANDRA est une filiale à 100% du CEA. Et donc, si le CEA pratique cette technique dans la région parisienne à Saint-Aubin, et il a peut-être des idées aussi sur d'autres endroits. Il faut savoir, c'est que suite à ces problèmes, le CEA a souvent dit, eh bien, tout ça, c'est un problème de communication. Nous ne savons pas expliquer, nous ne savons pas communiquer, comme M. Pellerin ne sait pas communiquer. Il ne faut pas se tomber dans ce piège-là. Ce n'est pas un problème de communication, c'est un problème de sérieux scientifique. Les journalistes, on s'est aperçu, et on en a eu, au bout d'un moment, on a eu un peu les nerfs par rapport à ça, je dirais, c'est que chaque fois que le CEA disait quelque chose, c'était une vérité, il n'avait pas besoin de prouver. Chaque fois que nous avancions quelque chose, un argument scientifique, il fallait prouver. Or, ça, c'est invraisemblable. C'est d'un côté, on admet, les journalistes admettent ce que dit le CEA, c'est, puisqu'il dit que c'est vrai. Chaque fois que nous disions, mais non, il fallait d'abord démolir l'argument du CEA, puis avancer un argument, mais nous, il fallait prouver. Et ça, on s'est toujours retrouvé dans cette situation, et ça, c'est quand même un petit peu anormal. Il faut se remarquer que, suite à ces problèmes, il a été créé des commissions. Ces commissions, nous avons plusieurs remarques à faire, c'est qu'elles n'ont pas de moyens de fonctionnement. Elles sont créées souvent par les élus sous la pression des populations. Pas de moyens de fonctionnement, c'est-à-dire pas d'argent. Ce qui veut dire pas de possibilité de faire de contre-expertise. Pas de possibilité de payer simplement les frais de transport des gens qui sont censés venir ici à titre bénévole. Pas des gens payés par le CEA ou par différentes EDF. Et surtout, nous avons remarqué, c'est l'absence systématique des représentants du ministère de la Santé, en particulier donc du SCPRI. Dans aucune de ces commissions, que ce soit Hitteville, Saint-Aubin, etc., il n'y a un représentant du ministère de la Santé. Et ça, c'est complètement anormal, puisqu'on parle environnement, on parle santé des gens, et l'absence totale donc du ministère de la Santé. Et là, bien que nous ayons fait des demandes pour qu'ils soient présents, ils n'ont jamais été là. Je terminerai donc en parlant donc à une responsabilité à un plus haut niveau, c'est qu'au niveau du gouvernement, chaque fois que le gouvernement était sollicité à travers les différents ministères, donc de l'environnement, de l'industrie et de la santé, chaque ministère se renvoie allègrement la balle d'un camp dans l'autre en disant ça c'est pas notre problème, ça c'est pas notre problème, oui bien sûr, alors bien sûr il y a eu des commissions parlementaires comme le DO, comme etc., qui se sont mis en place, mais comme ces commissions n'ont pas plus de moyens, on parle beaucoup beaucoup, mais en fait, on n'agit pas beaucoup. Et ça, ça a été donc notre grand désespoir de voir effectivement déboucher sur quelque chose de plus concret les problèmes de Saint-Aubin. Saint-Aubin n'est pas terminé, hein, on en reparlera certainement encore. Voilà, je m'excuse. Et donc, nous allons donner maintenant la parole, si j'ose dire, à notre vedette américaine d'aujourd'hui, c'est-à-dire Natalia Carpan, qui nous vient d'Ukraine et de Kiev. Et si l'on a du temps après, on fera un petit débat. Nous sommes obligés de reporter les conclusions et le point presse à 12h30. Nous avions 25 minutes de retard au départ. Nous en avons pris, nous pensons, encore 5 minutes de plus. Alors, Natalia Carpan, à toi la parole. Tu parles en anglais ?
Je représente l'organisation de la Fondation pour aider les victimes de Tchernobyl. Je voudrais remercier les organisateurs de me donner la possibilité de parler de la situation de Tchernobyl et des victimes de la catastrophe de Tchernobyl. Nous nous occupons de protection de l'environnement et surtout, nous nous penchons sur les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl. Nous travaillons à Kiev, à 100 km du lieu de la catastrophe. D'après les statistiques, cette ville n'aurait pas souffert de la catastrophe de la centrale. Et d'après les dernières informations, en mai et juin 1986, il y a eu beaucoup de contamination de produits radioactifs. En Ukraine, il y a notamment du strontium-19, du césium-137, et 1 million de personnes ont été contaminées. Il y avait plus de 10 curies carrées dans la région. Cela s'étend aussi en Biélorussie et même dans la Fédération russe. Il est très difficile de dire quelles sont toutes les terres qui ont été touchées par la catastrophe. On avait dit par exemple que certains territoires n'avaient pas été touchés du tout et pourtant ils l'étaient. Bien souvent, il y a des victimes qui sont les victimes d'activités malsaines. L'atmosphère parfois est polluée. Mais la catastrophe dont je parle s'est produite il y a 5 ans. Juste après cette catastrophe, il n'y avait que 31 personnes qui étaient mortes directement à cause du rayonnement. Mais chaque année, on trouve davantage de victimes de cette catastrophe. Et il y a sans cesse de nouveaux territoires qui sont considérés comme dangereux, où on ne peut pas habiter. Il y a de larges territoires qui ne devraient plus être utilisés pour des activités humaines. Il y a des millions de personnes qui vivent sur ces territoires qui devraient être envoyées ailleurs parce que si l'on vit sur place, c'est vraiment un danger pour la santé. Ce qui est le plus triste, sans doute, c'est que la plupart des personnes qui vivent dans cette région sont des vieux, des femmes et des jeunes enfants. Et c'est très difficile de déplacer ces personnes sans dédommagement du gouvernement. Il s'agit de personnes pauvres. Et comment peut-on leur demander d'abandonner ce qu'elles ont sur ces territoires pollués ? Cette stratégie est encore plus horrible quand on pense que cela s'est produit dans un pays où il y a très peu d'éducation à l'environnement. Bien des personnes ne comprenaient pas ce que c'était que la pollution radioactive. Ils n'ont rien fait pour se protéger contre les rayonnements radioactifs. Il y a eu aussi de la désinformation fournie par le gouvernement d'Ukraine. Ainsi, les gens n'ont pas pu comprendre le danger de leur situation. 5 ans plus tard, on s'aperçoit des conséquences tragiques d'une telle politique. L'an dernier encore, 19 villages ont vu leur population déplacée parce qu'il y avait un nombre de curés impressionnant sur leur territoire. Mais en fait, le déplacement n'est pas encore intervenu. Le gouvernement dit qu'on manque d'argent pour transplanter ces personnes, même si elles ne sont pas très nombreuses. En fait, 100 000 personnes ont dû être déplacées. Ça s'est fait dans les 3 ou 4 jours qui ont suivi la catastrophe, mais pendant 3 ou 4 jours, les gens ont vécu dans l'ignorance absolue du risque pour leur vie. Même maintenant, ces personnes n'ont pas encore de lieu agréable pour vivre. Ils n'ont pas non plus de services médicaux. Ils vivent à 5, 6 dans une seule pièce. Les enfants sont sans cesse malades. Et ils ont des tas de problèmes au travail également. Et actuellement, aucun dédommagement financier ne leur est accordé, même si leurs enfants sont malades. Les services médicaux ne les aident pas. Et j'ai un film de 10 minutes à vous montrer qui montre la situation des familles qui ont été déplacées depuis Tchernobyl et depuis la ville où les travailleurs de Tchernobyl ont été envoyés.